RFI, 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel.
RFI Matin.
Et Vincent Dublanche, nous sommes à Dakar pour débuter ce journal.
Les états-majors politiques sénégalais ont bouclé hier les derniers préparatifs pour être fin prêts aujourd'hui avec les premiers meetings de la campagne des législatives anticipées. Une attaque au Togo dans l'extrême nord aux confins du Bénin et du Burkina Faso, c'était dans la nuit de vendredi à samedi. 8 civils ont été tués. Le Tour du Faso, le Tour cycliste du Faso, suspendu du calendrier international en pleine compétition, car les organisateurs ont invité une formation cycliste russe. Dans cette édition, on fait le point sur les derniers combats dans le Nord Kivu entre le M23 et les forces en soutien à l'armée congolaise. Et puis on va vous faire découvrir en fin d'édition les talents installés ou en devenir du cinéma camerounais. Rendez-vous à Yaoundé dans 10 minutes.
Au Sénégal, c'est aujourd'hui le début de la campagne pour les élections législatives anticipées du 17 novembre.
Hier, forcément, Julien, les préparatifs battaient leur plein dans les quartiers généraux des formations ou des coalitions politiques sénégalaises. Deux exemples. Ce matin, au PASTEF du Premier ministre Ousmane Sonko et à Samsa Kadou, gros regroupement autour de Khalifa Sall et Barthélémy Diaz, respectivement ancien et actuel maire de Dakar, la capitale où se trouve Birahim Touré pour RFI.
C'est le siège de Khalifa Babacar Sall, ancien maire de la ville de Dakar, qui sert de quartier général à la coalition Samsa Kadou, dont il est membre, ainsi que Barthélémy Diaz, actuel maire de Dakar. Seule une poignée de responsables et militants y sont présents. À l'étage, Pateba, responsable de l'organisation et de la logistique, explique l'absence de mobilisation en ce début d'après-midi.
D'habitude, la journée est mise à profit pour s'organiser à la base, mobiliser les militants, parce que demain, nous allons procéder à notre d'ouverture.
Tout est quand même fin prêt pour accompagner les différentes figures en lice pour la députation.
Sur le plan logistique, tout est fin prêt. Donc les t-shirts, les casquettes, tout le matériel de campagne est au point. Tout le travail de branding a déjà été réalisé.
Autre ambiance au siège du parti PASTEF au pouvoir. Des militants discutent en attendant la sortie de leader du parti en réunion dans les locaux. Abbas Fall, candidat du parti à Dakar et ancien député, se voit déjà vainqueur du scrutin du 17 novembre prochain.
Cela montre effectivement que PASTEF n'est pas un petit parti. On attend juste le 17 novembre pour concrétiser. Mais le décret a été établi par les Dakarois et la signature se fera le 17 novembre, Inch'Allah.
La campagne électorale va durer 21 jours et 41 listes de coalitions, partis politiques et indépendants vont tenter de convaincre les électeurs. Birahim Touré, Dakar, RFI.
Et avec notamment aussi les coalitions Takou Walou Sénégal autour de l'alliance entre les partis de Macky Sall et de Karim Wade. Et puis Jam Ak Njarin de l'ancien Premier ministre Amadou Ba. Notamment donc au Soudan, les paramilitaires du général Hemeti accusés de nouveaux massacres dans plusieurs villages de l'état d'Al-Jazeera. C'est dans le centre du pays, juste au sud de Khartoum. L'organisation Sudan's Doctors for Human Rights a recensé 124 morts et de nombreux blessés. Des sources locales évoquent quant à elles des centaines de victimes. Elles évoquent aussi une possible vengeance des miliciens FSR après la défection du commandant local qui a rejoint le camp de l'armée régulière. Il y a une dizaine de jours, c'est à la une du journal de 7h temps universel.
Des civils tués, des familles endeuillées dans le nord du Togo.
Depuis 2021, des villages situés dans la préfecture du Kpenjal Ouest sont régulièrement attaqués par des groupes armés. Cette fois, c'est le village de Malbongou qui a connu cette nouvelle vague de violence. 8 villageois sont décédés. Cette attaque n'a pas été revendiquée, mais tous les regards se tournent vers le Jnim lié à Al-Qaïda. Sabine Melech.
L'incursion a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Selon plusieurs villageois, des hommes armés sont entrés dans une concession où ils ont tué de sang-froid 8 personnes. Le propriétaire d'une maison qui abritait des déplacés d'un village voisin pour échapper à l'insécurité a été abattu ainsi que ses protégés. C'est la deuxième fois en moins de 2 semaines que le village de Malbongou subit l'assaut des groupes armés. Quelques jours plus tôt, ils ont incendié des boutiques avant de disparaître dans la nature. Aucune victime n'avait été déplorée. Il ne se passe pas une semaine sans incident, c'est impossible, confie un habitant de la zone de Kpenjal Ouest. Ces derniers mois, cette zone est devenue l'épicentre d'incursions des groupes armés, contraignant de nombreux villageois à quitter leur maison à la recherche de sécurité dans des villages voisins. Les déplacés internes sont en constante augmentation. Conséquence, les champs sont abandonnés et les activités agricoles complètement paralysées.
Les groupes qui mènent des attaques terroristes contre les civils, qui s'en prennent aussi à des bases militaires et font parfois fi des frontières. Au Ghana, tout proche du Togo, du Burkina Faso. Ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'attaque recensée. On en parlait hier, il y a cette enquête de l'agence britannique de presse Reuters qui évoque un potentiel pacte de non-agression entre Accra et des groupes djihadistes, des combattants djihadistes venus du Faso qui utiliseraient le nord du Ghana comme base arrière, profitant, selon les sources interrogées par Reuters, de la porosité des frontières. Nouveau démenti catégorique hier du ministre ghanéen de la Sécurité nationale. On écoute Albert Kandapara.
Never have we even contemplated any...
Jamais nous n'avons envisagé une telle politique de non-agression. Si cela était vrai, pas besoin d'un journaliste pour le découvrir. Les agences de sécurité de toutes les parties prenantes, y compris la France, l'auraient su. Si vous allez dans le nord du Ghana, vous constaterez que nous avons réalisé des investissements considérables pour assurer la sécurité de nos agents et pour acquérir les moyens nécessaires pour repousser toute attaque terroriste contre notre pays. Nous croyons avoir fait ce qu'il faut pour résister à toute attaque et empêcher les djihadistes de recevoir du soutien des populations vivant le long de la frontière. Nous ne vivons pas dans la crainte d'une attaque terroriste au Ghana, ni aujourd'hui, ni demain. Mais bien sûr, nous sommes assez réalistes pour savoir que nous devons rester prêts au cas où un tel événement surviendrait.
Le ministre ghanéen de la Sécurité d'État interrogé par Christina Okello.
Après la Turquie et Oman, le nouveau chef de la diplomatie ukrainienne est en Afrique.
Il était en Égypte hier. Andriy Sibiga s'est entretenu avec son homologue égyptien Bader Abdel Haati. Le ministre ukrainien a exposé à son homologue le plan de Kiev pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Un exposé auquel l'Égypte a répondu en réaffirmant sa neutralité suite de la visite en Angola. Puis en Afrique du Sud, le chef de la diplomatie ukrainienne devrait s'entretenir aujourd'hui et demain avec des représentants du secteur économique, avec la communauté ukrainienne locale et avec son homologue sud-africain, alors que la nation arc-en-ciel a récemment réaffirmé ses liens avec la Russie, mais qu'elle entend aussi continuer à parler à tout le monde pour demander une force de négociation. Les échanges devraient également porter autour d'une possible future visite d'État en Afrique du Sud du président ukrainien Volodymyr Zelensky.
C'est une affaire diplomatique autant que sportive.
Et les deux sont parfois liés. En témoigne l'interdiction faite à la Russie de concourir directement aux Jeux Olympiques. Certains athlètes russes ont pu le faire, mais sous drapeau neutre. Et bien dans le cyclisme professionnel, l'Union UCI interdit toute invitation à une équipe russe. Le Burkina Faso est passé outre. Depuis 48 heures, il y a bien une équipe russe sur le Tour du Faso, célèbre épreuve cycliste du calendrier international. Et désormais, Thomas de Saint-Léger, suspendu.
Le règlement de l'Union cycliste internationale est clair, pas d'équipe russe ou bélarusse au départ d'une course UCI, mesure en vigueur depuis le début de l'invasion de l'Ukraine il y a plus de 2 ans et demi, difficile à ignorer. Et pourtant, le CSKA à Moscou, club historiquement lié à l'armée, est invité cette année par les organisateurs du 35e Tour du Faso. L'UCI est mise au fait avant le début de la course et demande alors le retrait immédiat de cette équipe. Un courrier officiel est adressé, il restera lettre morte et vendredi au départ de la première étape, les maillots floqués Russian Army, armée russe en français, sont bien présents au cœur du peloton. Le soir même, l'Union cycliste internationale annonce sa décision de retirer l'épreuve de son programme. D'autres mesures disciplinaires pourraient suivre. Et même si la deuxième étape s'est disputée normalement hier, cette mise au ban du calendrier officiel pourrait avoir de lourdes conséquences pour le cyclisme burkinabé et sa course phare. Référence en Afrique, le Tour du Faso souffrait ces dernières années de la situation sécuritaire du pays. L'édition 2022 avait même dû être annulée. L'épreuve survivait depuis sur sa réputation et sur le maintien du label UCI, indispensable à l'attractivité d'une course. Son avenir aujourd'hui s'inscrit en pointillé.
Et là aussi, c'était une affaire assez diplomatique finalement. On en avait beaucoup parlé sur RFI, cette vingtaine d'heures passées coincées dans un aéroport rural de Libye par les joueurs de la sélection nigériane de foot. Ils avaient protesté vivement, ils avaient même refusé de jouer leur match de qualif à la CAN contre la Libye. La Confédération africaine de foot a donné raison aux Nigérians. Match perdu 3-0 sur tapis vert pour la Libye et amende de $50,000. Les sports, on va en parler en détail dans une heure avec Christophe Diremzian, mais sachez, je vous le dis en bref, que le Sénégal a remporté hier la CAN 2024 de beach soccer. Elle a battu la sélection sénégalaise 6-1, la Mauritanie. Dans l'est de la République démocratique du Congo, malgré le cessez-feu décrété en août par le médiateur angolais, des combats se poursuivent. Hier encore, entre les rebelles du M23 et les groupes pro-gouvernementaux d'Iwazalendo, il s'agit toujours de cette offensive dans le territoire de Walikale. On est là au nord-ouest de Goma, la capitale provinciale, d'où nous appelle Héritier Baraka.
Selon des sources sécuritaires et administratives, les combattants du M23 ont attaqué simultanément plusieurs villages du groupement de Kisimba, dont les villages de Minjenje et Malemo, qui sont passés dans les mains des rebelles. Ces combats violents ont occasionné des déplacements vers la ville de Pinga. Des centaines d'habitants, en majorité des femmes et des enfants, sont arrivés en masse dans la soirée d'hier sous une pluie battante, selon la société civile locale. Dans leurs offensives, les rebelles du M23 ont aussi pris contrôle des villages de Katobo, Luola, Mbukuru et Mukohoa. Selon des sources sécuritaires, ils chercheraient désormais à prendre la ville de Pinga, base importante de l'armée, et ses alliés les NDCR, où se trouve un aérodrome. Au moins une dizaine de civils ont été tués depuis le début de la semaine dans ces combats, toujours selon des sources sanitaires dans la région. L'Angola avait condamné en début de la semaine la violation du cessez-le-feu par les M23. Des sources proches de l'AFC M23 disent ne pas être liés à ce cessez-le-feu n'y a pas été associé avant l'annonce de cette décision. Héritier Baraka, Goma et RFI.
Un calme précaire au Mozambique. Pas de nouvelles manifestations hier, mais une contestation toujours des résultats des scrutins généraux du 9 octobre. Le parti au pouvoir tend toutefois la main à l'opposition. Il veut bien dialoguer avec Venancio Mondlane et son parti Podemos, qui est arrivé deuxième à la fois à la présidentielle et aux législatives. Venancio Mondlane qui lui appelle à une nouvelle journée de mobilisation dès demain.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
Et Vincent, terminons avec notre dossier du jour au cinéma dans la capitale politique du Cameroun, où vient de s'achever la 28e édition du festival Écran Noir.
Un festival de cinéma durant 7 jours, une centaine de films, des longs, des courts-métrages, des documentaires, même des séries, des web-séries aussi qui étaient en compétition. C'est le réalisateur camerounais Ena Scott qui en sort, on va dire, vainqueur. Il a reçu 5 récompenses, notamment le prix spécial de l'Association africaine des critiques d'art, Richard Onaneda.
Son film Half Heaven, dans lequel l'actrice camerounaise Cindy Emadé partage l'affiche avec le Nigérian Chidi Mokeme, a été salué par la critique. Il rafle 4 prix. Ena Scott a dédié ses prix aux jeunes cinéastes, leur rappelant que tout est possible pour celui qui ne désespère pas. Fin de citation. L'Écran d'or, la plus importante distinction du festival, revient à qui tout double de la Marocaine Rachida Saadi. Farah El Fassi, l'actrice principale, remporte le prix de la meilleure interprétation féminine, méritée, selon Thierry Edjegué, membre du jury.
L'histoire est assez bien écrite. Les autres aspects, que ce soit le son, l'image, la mise en scène, le montage, l'excellent jeu d'acteur ne pouvait que conduire à ce prix-là.
Divana Kate, réalisatrice congolaise qui prenait part au festival pour la première fois, n'a pas gagné de prix, dévancée par le Camerounais Ena John Scott dans la catégorie meilleur film d'Afrique centrale. Elle estime que le plus important, c'est que le message de son film voyage.
Mon film, Kozela, autrement dit Attente, parle de la condition mentale dans laquelle on se retrouve parfois lorsqu'on attend quelque chose qui vient pas. Le fait que le film soit sélectionné ici, pour moi, c'est déjà une consécration.
Cette 28e édition du festival Écran Noir s'est déroulée dans un contexte un peu morose, avec des salles noires peu fréquentées. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Richard Onanena, qui poursuit ce dossier, il a interrogé le délégué général du festival Écran Noir. Il y a eu 300 jeunes de moins de 30 ans qui ont pris part à un concours. C'était tout nouveau cette année. Basek Bakobio nous explique tout. Il est le délégué général donc de ce festival.
Il y a 3 premiers qui sont retenus. Après une formation, réalisent le premier film. À l'issue de cela, il y a un vainqueur qui est déclaré. Le vainqueur bénéficie d'un peu d'argent, mais surtout d'un mois de séjour professionnel en Allemagne. Et puis cette année, nous avons apporté une innovation. C'est que les techniciens même qui sont derrière sont tous des jeunes de moins de 30 ans, de manière à ce qu'on ne détecte pas que des réalisateurs, mais aussi des techniciens.
Des propos donc recueillis par Richard Onanena. Vous retrouverez bien sûr ce dossier sur notre site rfi.fr.
Merci.
Julien Coquel-Royem, c'est à vous.
Merci Vincent Dublange. À tout à l'heure.
RFI